Occupé la semaine dernière des chapitres 12 et 13 de cet épître. Et par conséquent de ce que la parole nous dit concernant ce qui est appelé les manifestations spirituelles dans l'Assemblée. L'assemblée vue comme le corps de Christ, Christ lui-même, mais l'assemblée étant exprimée, représentée dans des rassemblements effectifs de croyants, ici l'assemblée locale à Corinthe. Le chapitre 12 nous a montré le Saint-Esprit distribuant selon sa propre sagesse, une sagesse divine, puisqu'il est Dieu, les dons qui procèdent de Dieu lui-même, dont la volonté s'accomplit ainsi par Jésus comme Seigneur, le Christ donnant à son assemblée, c'est ainsi qu'il nous est présenté dans les Éphésiens. Mais les dons sont répartis, distribués par le Saint-Esprit lui-même sur la terre. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui caractérise le chapitre 12, puissance exercée pour la gloire de Christ, dans la reconnaissance et l'exaltation de la Seigneurie de Jésus. Les différents dons, dons en rapport avec la parole, ou les dons miracles, les dons signes qui étaient destinés à accompagner la prédication de la parole, à la confirmer, selon une expression scripturaire, mais dont l'objet était, demeure, d'amener les âmes à recevoir cette parole. Ces dons extérieurs, ces dons signes, nous ont été présentés au chapitre 12 avec ces dons relatifs à la parole, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, dont qui, dans le chapitre que nous venons de lire, se retrouvent prophétie, prophétie, connaissance, révélation, enseignement, et dès la fin du chapitre 12, l'apôtre pouvait dire: désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Ces dons qui avaient été présentés en première ligne, tout d'abord, il a placé dans l'assemblée tout d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite alors des miracles, etc. Alors poursuivez, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Mais ce désir des dons de grâce excellents et l'exercice de tels dons demande, suppose, exige chez les saints un autre aspect de l'opération du Saint-Esprit dans l'Assemblée et dans les âmes individuelles Et c'est le chemin le plus excellent que l'apôtre place devant eux, devant nous, c'est-à-dire l'amour. L'esprit, qui est un esprit de puissance, est aussi l'esprit d'amour. Et ayant présenté, et de quelle manière, toujours saisissante et admirable, au chapitre 13, l'amour de Dieu appelé à être en exercice et manifesté dans l'assemblée, car tout ceci est en rapport avec l'assemblée. L'apôtre, ayant établi la prééminence, la supériorité de l'amour sur toute autre chose et sur les dons qui attireraient le plus l'attention des hommes et même sur les autres vertus essentielles de tout le christianisme et de toute vie chrétienne, c'est-à-dire la foi et l'espérance, ayant placé l'amour non seulement au-dessus de toute chose ici-bas, mais l'ayant placé dans sa permanence éternelle, l'amour ne périt jamais. Alors l'apôtre en revient maintenant, après cette parenthèse du chapitre 13, car c'est une parenthèse, à ce qu'il avait dit, désirait avec ardeur les dons de grâce plus grands, verset 31 du chapitre 12. Alors maintenant, poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout prophétisez. Et ce chapitre 14, comme chacun le sait et a pu le voir une fois encore donc, par cette lecture, est le chapitre de l'exercice des dons de l'esprit dans l'assemblée. Dans l'assemblée, et même plus spécialement, plus particulièrement, dans les assemblées des saints, dans les rassemblements comme assemblées. Là, le Saint-Esprit, au chapitre 12, distributeur des dons, est vu dans ce chapitre 14 comme celui qui agit par ses dons, comme celui qui les fait s'exercer, comme celui qui préside à leur action dans l'assemblée. Et cette action de l'esprit, elle est marquée par deux grands caractères. Savoir l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir aucune action véritable. J'entends d'édification, c'est-à-dire de travail dans les âmes de manière à produire leur accroissement spirituel. Et par là l'accroissement de l'assemblée, car c'est le sens du mot d'édification, construction, n'est-ce pas, accroissement, qu'il s'agisse d'une construction matérielle, qu'il s'agisse ici du corps. La même expression se retrouve dans les Éphésiens. Mais alors la première chose, c'est précisément l'expression du chapitre 4 des Éphésiens, verset 12, sauf erreur, il est parlé de l'édification du corps en amour, pour l'édification de lui-même en amour. La première chose, c'est l'amour. L'esprit, amour, esprit de puissance, esprit d'amour. Mais, une autre chose que nous avons rencontrée tout au long, accompagnant ce souci de l'amour, du bien de l'ensemble et du bien de chacun, Une autre chose que nous rencontrons là, c'est l'intelligence. L'intelligence spirituelle. L'intelligence qui fait les choses selon une sagesse donnée par l'esprit, selon un ordre qui est nécessaire pour le bien de tous et particulièrement pour la paix. Et c'est là ce qui répond au troisième grand caractère de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, puissance, amour, conseil, ou bon sens, esprit de sobre bon sens. C'est ainsi que nous l'avons dans ce chapitre 14. Et c'est ainsi que peut et doit se faire l'édification de l'Assemblée par l'Esprit, employant qui il veut, mais l'employant de la manière qui seule peut être utile à l'ensemble. De sorte que la comparaison qui est faite dans la plus grande partie du chapitre entre le don de prophétie, résumant, on peut dire, tous les dons les plus grands, les dons de grâce concernant précisément la présentation de la parole, ce don est mis en contraste avec, ou du moins est mis en comparaison avec les dons qui attiraient l'attention sur eux-mêmes, c'est-à-dire le don des langues, et avec lui on peut dire tous les dons signes, tous les dons miracles, et l'excellence de la prophétie est montrée de différentes manières quant à son utilité, quant à la sagesse que de Dieu que qui se trouve là manifestée d'une manière particulière, plus que la puissance, mais aussi, et il est bien insisté, sur le, et c'est là que nous retrouvons l'amour en exercice, le souci du bien des autres, le souci de l'utilité, et non pas de la propre satisfaction. Le don miraculeux, le don des langues, satisfaisait à la fois l'égoïsme, la vanité ou l'orgueil personnel, sans aucune utilité pour l'assemblée. Alors que les dons spirituels qui sont à désirer avec ardeur sont toujours en vue de l'utilité. Et pour qu'il soit utile, il faut que ce qu'il donne soit reçu, puisse être reçu, et soit, selon l'expression que nous retrouvons ici, intelligible. L'amour, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, voilà ce qui concourt à l'édification du corps. De tout ce chapitre, c'est évidemment ce mot, édification. Le mot revient 5 fois, et 2 fois le verbe édifier.
À la fin du chapitre, il y a une sorte de résumé général, lorsqu'il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu désordre, mais de paix. C'est un Dieu d'ordre. En toute chose, l'ordre, c'est la volonté de Dieu, rien d'autre. C'est pour la réalisation de cela que des développements aussi sérieux profond nous sont donnés. Parce que nous avons en nous tous ce qui est la source de tout désordre, c'est la chair. Et nous ne sommes pas surpris si tant d'exhortations sont nécessaires, étant donné ce que nous sommes par nature et que nous oublions si volontiers. Et si nous constatons l'état du rassemblement de nos jours, nous pouvons sentir combien un chapitre tel que celui-là est d'une importance qu'on ne saurait en aucune manière surestimer. Que Dieu veuille qu'il en résulte des applications assez pratiques pour que chaque rassemblement et chaque saint en reçoivent du profit à la gloire de celui que nous aimons malgré tout, dont la présence nous est malgré tout indispensable, sans lequel nous serions plus misérables que tous les hommes. Ces exhortations sont données, mises à la portée de la foi, de la piété, pour que cette présence du Seigneur soit conservée dans les rassemblements. Qu'il en soit ainsi.
Dans les assemblées des saints est un rôle muet. C'est l'avant-dernier paragraphe qui le rappelle. Mais non pas un rôle passif. En ce sens que si le souci est dans tous les cœurs de l'édification commune du bien de l'ensemble, elles auront chacun, chacune à sa place. Elles auront le désir de la bénédiction, le souci de l'édification produite, et ce rôle si précieux de la prière avant l'assemblée, pendant que se déroulent les actes divers du rassemblement, en sorte que, aussi, elle soit épargnée de la tendance qui nous est à tous naturelle, davantage disséquer, voire discuter, voire critiquer, mais tout au contraire, dans la joie de l'esprit qui a produit l'édification, elles pourront apporter dans leur foyer même l'écho, l'impression sanctifiante de ce qu'elles auront reçu et nous avec elles dans cette action de l'esprit au sein de l'assemblée réunie, en sorte que ce que nous considérons ensemble, même si on le comprend, seuls sont considérés les dons visibles, l'action audible de l'action du Saint-Esprit. Il y a pour chacun de nous ici des leçons sérieuses et importantes à retenir et à mettre en pratique. L'Assemblée réunie s'édifie elle-même par le moyen des dons de l'Esprit, la parole de Dieu étant présentée selon les besoins à l'heure actuelle, les besoins continuels de l'Assemblée elle-même, appelée à s'édifier elle-même par l'action puissante de l'Esprit de Dieu au milieu d'elle. Nous avons besoin d'être toujours davantage attentifs à ce qui nous est ici enseigné, À ce à quoi il nous faut revenir souvent pour que le déroulement des actions diverses dans l'Assemblée réunie étant un sujet d'exercice avant, pendant et après la réunion elle-même, ce que l'Esprit de Dieu s'est proposé de nous communiquer soit saisi et gardé. Qui nous en fasse la grâce à l'égard de tout rassemblement.
Parler de l'amour dans le chapitre précédent et au début de celui-ci, c'est que l'amour qui seul permet d'obtenir le climat dans lequel les dons peuvent s'exercer utilement, c'est que l'amour ne se réalise que dans la communion avec le Père et avec le Fils. Donc chacun de nous devrait être exercé à réaliser cet état pour son compte. Tout vrai chrétien a le privilège de pouvoir goûter cette communion. Et c'est la réalisation de cette communion qui donne, notamment pour les exercices des dons, qui donne et l'intelligence dont on nous a parlé, n'est-ce pas ? L'intelligence, le dévouement, l'humilité, l'effacement, le souci de ne penser et qu'au Seigneur et qu'à ceux qui sont siens. Parmi les dons qui sont là dans les débuts, deux sont présentés en mise en relief. C'est celui, le don des langues et le prophète. Pour ce dernier en particulier, l'examen de ce qu'il représente est d'une immense utilité.
Bien aimé enfants et marcher dans l'amour. Et d'abord ce qui m'a été présenté relativement aux sœurs et ce qui a attiré notre attention dans la suite et nous ramène, je crois, la pensée, la notion, la réalité capitale de tous ces chapitres, c'est-à-dire de l'unité du corps. L'esprit, un même et seul esprit, distribuant ce qui lui plaît, et opérant pour le bien de l'ensemble, vu dans cette unité dont un corps organisé est la figure. Et dans un corps vivant et qui fonctionne normalement, la vie est dans toutes ses parties. Il n'y a pas une partie, un membre, une partie quelconque, qui soit inactive. Il n'y a pas de passivité. Le terme a été prononcé tout à l'heure. Les sœurs sont exhortées, il leur est enjoint plutôt de demeurer dans le silence, mais non point dans l'inaction. Non point dans la passivité. Et de même, les frères qui ne se sentiraient pas appelés à faire entendre leur voix dans l'assemblée, n'ont pas à se considérer comme passifs, comme recevant sans qu'il y ait un exercice chez eux. Cela ressort de tout ce que nous avons étudié déjà et de ce que nous trouvons dans ce chapitre. Une assemblée de Dieu, rassemblée sous son regard, ce n'est pas seulement un rassemblement de gens qui viennent écouter quelque chose, reçoivent ce qu'ils peuvent, ne reçoivent rien s'ils n'y font pas attention. Non, c'est le corps qui est là, qui est appelé à fonctionner pour son édification propre par l'esprit. Et c'est une œuvre commune, une action commune à laquelle tous concourent dans le silence ou expressément. Et si une action est exercée pour la satisfaction de celui qui l'exerce, c'était le cas de ceux qui parlaient en langue, mais sans utilité effective pour les autres. Cela est non seulement hors de place, mais cela est nuisible, et cela, finalement, est contraire à la pensée même de l'esprit qui avait donné ses dons. Il n'avait pas à être exercé là. Un rassemblement de saints, comme assemblée, n'est pas un lieu où situations extatiques se manifestent. Pas du tout. Mais c'est un exercice commun, une action commune à la gloire du Seigneur et pour le bien de chacun.
Pas d'autre. Dans l'Écriture, il n'y a pas d'autre. L'autre rassemblement que celui qui est donné là. Et les chrétiens ne sont jamais vus comme laissés à eux-mêmes, comme des brebis sans berger. De sorte que tout ce qui est apparu dans la chrétienté et qui existe et qui tendrait à se développer dans divers milieux, même parmi nous, est établi dans l'ignorance de ce que le Seigneur a dit. Les âmes qui lui appartiennent, il les groupe, il les réunit. Il s'en occupe, elles ont besoin d'être édifiées. Et notons bien aussi que nous n'avons rien à édifier quant à la manière de nous rassembler. Le Seigneur a donné toutes les instructions. Notre sécurité et notre joie sont de les suivre. Il est remarquable qu'ayant donné la liste des dons au chapitre 12, cela n'est pas suffisant. Il donne des instructions quant à leur emploi ici.
Inutile que l'on nous parla un peu de ces dons particulièrement propres à l'édification, ce qui, je pense, est synthétisé, concentré dans cette expression de celui qui prophétise, car on voit que derrière ce terme se trouve groupé au verset 6. Il y a le mot prophétie, mais il y a la révélation, la connaissance, la prophétie, la doctrine. Il y a l'ensemble de ce qui est donné relativement aux besoins et aux besoins du moment de l'assemblée. Plus au temps des révélations à proprement parler, elles ont été données par les apôtres et les apôtres ont passé il y a longtemps leurs révélations ont été consignées dans la parole de Dieu, nous les avons. La révélation finale, celle de l'apôtre Jean, l'Apocalypse, se clôt par des paroles très sévères à l'égard de ceux qui ajouteraient quelque chose aux paroles de la prophétie de ce livre, le dernier livre. L'apôtre Paul a pu dire qu'il avait été envoyé pour compléter la parole de Dieu, de sorte que la révélation peut être considérée comme close. Mais alors il y a pour appliquer au temps, aux circonstances particulières, aux besoins actuels de l'assemblée, d'un temps à l'autre, d'une génération à l'autre, et maintenant à l'approche de la venue du Seigneur, ce qui a été ainsi donné par révélation, il y a ce qui est appelé la prophétie. De même que l'ensemble de l'écriture, de la parole, de la révélation ainsi complète est appelé à faire l'objet d'une étude dans la dépendance, sous la direction du Saint-Esprit, et fait la matière, constitue la matière de la connaissance propre aux docteurs qui ont ensuite à l'enseigner. De sorte que je fais allusion ici à ce que nous avons au verset 6, n'est-ce pas? Maintenant, frère, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterai-je? À moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Révélation et prophétie vont ensemble, connaissance et doctrine vont ensemble, mais le tout se rapporte bien à ce qui a été révélé. Nous ne pouvons pas puiser autre chose en autre chose que dans l'Écriture, dans la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. C'est proprement la révélation de Dieu pour nous, mais l'Esprit de Dieu, par des moyens divers, veut nous faire entrer dans la possession, dans la jouissance de ces choses, non pas pour un profit personnel tout égoïste et intellectuel, mais pour une marche pratique à la gloire du Seigneur et pour le bien de l'Assemblée, sa marche collective.
Nous n'attendons pas de nouvelles révélations. Mais la parole présentée par un prophète, une parole qu'on a peut-être entendue 10 ou 100 fois, peut, à un moment donné, par un prophète authentique, c'est-à-dire par un frère qualifié par le Seigneur, peut avoir la force d'une révélation toute nouvelle. Peut paraître à l'âme qui a entendu, qui connaît la vérité générale depuis longtemps, cette vérité l'atteint au fond de sa conscience et de son cœur. Et nous pouvons bien demander au Seigneur qu'il suscite des prophètes.
le ministère des prophètes a pour heureux effet de combattre la tendance au sommeil, qui est particulièrement celle des jours de déclin. D'ailleurs, à la fin du chapitre, ou de la page suivante, de la première colonne, nous voyons bien que le don de prophète, le service du don de prophète va plus loin que celui du docteur. Il va plus loin. Le docteur présente les vérités, et il y a là une grande source d'édification, mais le prophète présente la vérité d'une manière qui saisit l'âme, et il atteint dans sa conscience. Et s'il y avait des prophètes dans les assemblées, davantage comme il en est, l'apôtre le souhaite, les prophètes agissant, un docteur, quand il enseigne, touche surtout des personnes chrétiennes. Tandis que le prophète peut toucher des inconvertis, ce que nous voyons au passage auquel je fais allusion. Et si des prophètes agissaient dans les rassemblements des saints, des âmes inconverties pourraient être atteintes, et même sans, en tout cas, dire « mais Dieu est véritablement là ». Le don des prophètes a pour effet de manifester la présence de Dieu parmi les saints. Dieu habite dans une assemblée et il met en évidence sa propre présence par l'action de ceux qui l'emploient, et en particulier des prophètes.
De ce don de prophète, on le comprend, exige de la part de celui qui l'exerce une plus grande dépendance encore du Seigneur que pour un enseignement ou une doctrine à rappeler. Il faut, et nous avons à désirer cela, que, étant exercé, quant aux besoins même de l'assemblée, entrant dans ses peines, ses exercices, ses luttes, ses souffrances, l'amour du Christ soit vraiment le mobile de l'action du prophète. On a dit que ce don de prophétie, l'apôtre Paul l'exerce d'une manière toute particulière dans l'épître aux Philippiens. Il y avait eu un temps d'interruption, en quelque mesure, dans l'expression de la communion entre les Philippiens et lui-même. Cela lui avait été une peine, un exercice. Il en avait d'autant plus souhaité pouvoir être employé en bénédiction à l'égard de ses chers amis de Philippe. Et si on prend garde à ce déroulement de l'exhortation en même temps que la présentation de la personne du Christ, on comprend que le souci de l'édification, le souci de la bénédiction de ceux à qui il s'adresse, en est le mobile et le motif principal. En sorte que, pour entrer dans le domaine des choses pratiques, nous ne saurions être de quelque manière vraiment utile à l'assemblée si nous ne participons pas dans nos exercices intérieurs personnels avec le Seigneur, si nous ne participions pas de ses besoins et de ses peines. Alors la personne du Seigneur nous devient à nous-mêmes plus précieuse et nous sommes capables de prononcer ses saintes paroles. Ces saintes paroles qui édifient, nécessitant, ajoutons-le, un exercice plus profond Et pourrions ajouter une sorte d'action de l'amour, l'action de l'amour en pratique, plus profond que s'il s'agissait de rappeler des enseignements connus. Tout pour l'édification, dans la dépendance de celui qui donne. Paul pouvait bien dire, si je vous parle par révélation, de fait, dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, c'est une révélation merveilleuse que celle qu'il communique. Lui, l'administrateur du mystère du Christ et de l'Église. Il y avait là une chose, un mystère caché dès les siècles en Dieu. Et parce qu'il pouvait parler par l'Esprit, par révélation, il nous a donné, en particulier dans la merveilleuse parenthèse du chapitre 3, il nous a donné de comprendre, d'apprécier, de bénir Dieu pour une révélation. Si, comme on le pense, c'est lui-même qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il peut faire état d'une réelle connaissance des choses déjà connues pour en faire une application très actuelle à ceux qui, convertis parmi le peuple élu, avaient été appelés à quitter la bergerie juive, si on ose dire, et à faire partie, désireux de suivre le Christ. On voit dans ces développements magnifiques de tout ce qui avait été déjà donné à connaître au temps des ombres, en particulier quant aux choses du tabernacle et à l'exercice du culte selon la loi de Moïse, on voit que sa connaissance de ces choses était une connaissance profonde. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Il savait de quoi il parlait. Je répète, si comme nous le pensons, nous avons lieu de le penser, si comme on le pense, il est bien l'auteur de cette magnifique épître. Il nous faut y insister. La connaissance, j'allais dire la simple connaissance, sans l'exercice de cœur et d'âme devant Dieu, la simple connaissance de la vérité divine ne saurait suffire pour l'édification. Et nous avons besoin de passer, chers frères, qui en quelque mesure portons une responsabilité à cet endroit, et que nul parmi ceux à qui Dieu a confié quelque service pour le bien des siens ne se tienne en arrière de ce qui est sa responsabilité. Mais nous avons besoin de réaliser ces choses avec le souci profond d'être employés du Seigneur. Ayant joui nous-mêmes, nous avons à souhaiter ardemment que la communion avec le Seigneur soit à l'origine et le mobile ou le moyen d'édifier l'Assemblée. Et qui a pu nous intéresser personnellement pendant une semaine, et Dieu veuille que l'étude de la parole de Dieu soit effective pour chacun de nous. Mais tel sujet qui nous a édifiés, dont nous avons joui, peut très bien ne pas être celui qui, lorsque l'Assemblée sera réunie, devrait être présenté. La spiritualité des saints ne s'y trompe pas. Mais nous-mêmes, avec le secours de Dieu, si nous sommes gardés dans sa dépendance, nous pouvons, avec eux, dans la dépendance de l'Esprit Saint, réaliser Et quelle grâce que le bien est recherché ensemble et que si l'exhortation est de mise, notre propre cœur est d'abord exercé. La parole est pour nous, si nous avons aussi à la présenter à l'intention de ceux que nous aimons et pour qui nous désirons nous dévouer. Ce sont des choses sérieuses. Il y va de la bénédiction de ce qui est si cher au cœur du Seigneur. Ses intérêts sur la terre, présentement, sont dans l'Assemblée.
Il est très désirable, et puissions-nous ne pas l'oublier, que le Seigneur donne des prophètes. Le prophète peut très bien ne pas savoir ce qu'il aura à dire à la réunion où il ira. En général, il ne sait pas. Le docteur peut le savoir, surtout si c'est une réunion annoncée d'avance. Mais le prophète peut ne rien savoir et il peut parler d'une manière telle que des âmes seront atteintes. Et je pensais tout à l'heure à la rencontre de la Samaritaine et du Seigneur. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Voilà le travail du prophète. Il sent le savoir, mais le Seigneur sait tout, le Saint-Esprit sait tout. Sans le savoir, il pourra, si on ose employer cette expression, qui n'est pas très bonne, parce que elle pourrait risquer de supposer une intention préalable, il décochera une flèche qui ne manquera pas son but, et il sera le dernier à le savoir. Un peu plus loin dans le chapitre, nous voyons que lorsque les prophètes agissent dans l'assemblée, les vrais prophètes, un homme de dehors, pour l'homme de dehors, les secrets de son cœur lui seront rendus manifestes à lui-même. Le prophète, si l'on osait dire, apporte Dieu avec lui, il le présente, et il met les âmes en contact avec Dieu. Nous avons aussi souvent répété dans ce passage ce qui est relatif au don des langues. J'étais très fier de parler beaucoup et en langue. Chacun de nous, sans prétendre avoir jamais eu de don des langues, a eu plus d'une fois à reconnaître qu'il avait trop parlé. Et nous avons à être enseignés à savoir nous taire et à savoir parler. Ce qui n'est pas pour l'édification ne doit pas être fait et ne doit pas être dit. C'est un grand exercice, mais le Seigneur bénira toujours si on s'applique à suivre ses enseignements, même ceux qui paraissent les plus impossibles à réaliser. Ce sont les meilleurs.
Les exhortations que nous avons à la fin de la première épître aux Thessaloniciens revêtent toute leur importance. On sait que ces exhortations du chapitre 5 de cette épître se divisent en différents groupes. Or, le dernier groupe, qui est formé par les versets 19, 20, 21 et 22, nous dit ceci, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. » N'éteignez pas l'esprit. On peut bien dire que si l'Esprit de Dieu avait davantage sa liberté d'agir parmi nous, un tel don se manifesterait aussi davantage au milieu de l'assemblée. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Il nous semble que dans cette exhortation, ne méprisez pas les prophéties, nous n'avons pas seulement cette pensée qui a été exprimée, ne méprisez pas le don de prophétie ou la parole de Dieu qui peut être présentée par un frère extrêmement simple. Cela est parfaitement juste, nous n'avons pas à mépriser une telle action, cela est clair. Mais n'y a-t-il pas une exhortation plus importante encore que nous avons à nous rendre compte davantage de l'importance d'un tel don? Et quand un tel don, le don de prophète, se manifeste parmi nous, nous avons à l'apprécier d'une façon particulière. Le prophète est ce frère qui a été doué de la part du Seigneur pour faire valoir sa parole et pour montrer sa pensée au milieu de l'assemblée à un moment donné. Ce frère fait ressortir les pensées de Dieu et les ressources de sa grâce répondant à des circonstances plus ou moins exerçantes que l'assemblée en question traverse. Nous avons à nous soumettre à la pensée ainsi exprimée par un tel frère de la part du Seigneur, ce frère que le Seigneur a doué comme prophète. Ne méprisez pas les prophéties. Ce frère peut, de la part du Seigneur, nous donner quelques pensées qui ne seront peut-être pas toujours très réjouissantes. Nous préférions entendre d'autres choses. La vérité stricte et pure de Dieu, nous n'aimons pas toujours l'entendre. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, sachons apprécier tout ce que le Seigneur nous donne de la part d'un tel frère ainsi doué. Il nous montre ce qui, de la part de Dieu, est bien et mal, d'où les exhortations suivantes. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, attachez-vous à ce qui est bon, retenez cela, ne soyez pas submergés par ce qui est mal, mais aussi, à l'égard du mal, abstenez-vous de toute forme de mal. Ce sont quelquefois des exhortations très sérieuses qui nous sont données de la part du Seigneur par le moyen d'un tel frère, appelé, nous le rappelons, à faire valoir la parole et la pensée du Seigneur au milieu de l'assemblée. Ne méprisez pas les prophéties, bien au contraire, sachons apprécier un tel don.
Vient très clairement de ceci, à la sortie d'une réunion où étant au milieu de la foule, quelqu'un a dit « Comment se fait-il que ce prédicateur connaisse ainsi ma vie ?»
Qui a été faite souvent. Et c'est quelque chose de précieux à rappeler parce que cela nous montre la fidélité du Seigneur et la permanence de l'Esprit Saint, même dans nos jours, même dans nos circonstances, même dans l'état actuel de l'Église, du témoignage, des rassemblements. Et nous avons à y prendre garde. Il ne s'agit pas d'une action d'homme, mais de l'action de l'Esprit, et sachons le reconnaître. En dehors de cette action effective de l'Esprit, et elle s'accompagnera toujours, ou plutôt elle en sera toujours marquée, s'accompagnera toujours de l'amour, du désir, par conséquent, du bien des autres, et de ce véritable amour que nous avons vu au chapitre 13, l'amour de Dieu, qui comporte, qui, on peut dire, même son caractère essentiel dans la mise de côté de nous-mêmes, dans une véritable humilité. En dehors de cela, et nous savons ce qu'il en est de toute connaissance, qu'elle s'appelle d'un nom ou d'une autre, la connaissance ange. Pour qu'il y ait édification, il faut qu'il y ait l'amour. Et prophétie, révélation, connaissance, doctrine, tout cela ne peut profiter que si il y a ce travail de l'esprit dans l'amour, par l'amour. De même que ces dons auxquels les Corinthiens attachaient une si grande importance, et qui attiraient l'attention sur ceux qui en étaient pourvus, ce don des langues en particulier, n'était pas quelque chose à dédaigner. L'apôtre en fait cas, il est bien loin de le mettre de côté, il était nécessaire à cette époque, mais lorsque il s'exerçait pour la seule satisfaction de celui qu'il possédait, et c'était le cas dans ses assemblées à Corinthe, et qu'il n'y avait aucun profit pour ceux qui écoutaient, il s'exerçait non pas de façon, il s'exerçait de façon totalement inutile, mais il n'était pas sans une certaine démonstration. Il démontrait la puissance de Dieu, la puissance de l'esprit, et il est même probable que les possesseurs de ce don disaient, mais voyez, je glorifie en cela le nom du Seigneur Jésus, puisque je puis procéder avec tant de puissance. Mais la puissance en elle-même n'est rien. La connaissance ange des miracles peuvent étonner, les miracles du Seigneur sur la terre, étonner. On trouve continuellement cette expression dans l'évangile de Luc en particulier. Cela étonne, cela saisit, cela frappe. Mais, si cela ne va pas plus loin, et cela n'allait pas plus loin dans l'assemblée à Corinthe, il n'y a aucun résultat durable. Et on le voyait bien pour les foules qui voyaient les miracles du Seigneur, et qui ne recevait pas sa parole. La connaissance ange, les miracles étonnent, frappent, mais il n'y a d'édification que dans l'opération de l'amour. Et alors, s'il s'agissait de communiquer aux autres, ce qui venait de Dieu, distribué par l'Esprit de Dieu, et il fallait bien que prophètes, docteurs, agissent sous cette direction effective de l'Esprit, et ce ne pouvait être que par amour. Et un des caractères, une des marques, que les choses étaient bien faites selon l'esprit, c'est que le discours était intelligible. Ce que disaient en esprit, ce que se disaient à eux-mêmes et à Dieu, il parle à lui-même et il parle à Dieu, celui qui parlait en langue n'était pas probablement, il me semble, d'après ce que nous avons dans ce chapitre, quelque chose d'insensé, quelque chose qui n'avait pas de sens, quelque chose qui n'était pas propre à édifier lui-même, nous est-il dit. Mais c'était sans aucun profit pour ceux qui l'entouraient, parce que il ne prononçait pas des sons inarticulés, comme on veut présenter aujourd'hui le don des langues comme la production de sons étranges que l'intéressé produit par une force surnaturelle, sur l'origine de laquelle nous n'avons pas à nous prononcer, mais qui n'a aucun sens, ni pour lui, ni pour les autres. Là, il ne s'agissait pas, semble-t-il, de choses qui n'avaient pas de sens, mais c'était des choses inintelligibles pour ceux qui écoutaient. Si quelqu'un vient ici, parle une langue étrangère personne que lui ne comprend, il peut prononcer des paroles extrêmement sensées et pleines de connaissances et parfaitement conformes à l'écriture, mais de quel profit ce sera-t-il pour qui que ce soit? De même, si quelqu'un prie en une langue étrangère que personne ne comprend autour de lui, comment quelqu'un pourra-t-il dire amen à une prière dont il ne sait pas le sens? Mais je pense que nous pouvons en tirer aussi cette leçon pratique que même parlant des paroles enseignées par l'esprit, conformes à l'écriture et vraiment quelqu'un exerçant le don de prophète ou de docteur à quelque degré que ce soit, il doit être compris. Il doit parler dans un langage que tout le monde comprenne. Et peut-être, là aussi, avons-nous, les uns et les autres, à prendre garde.
De telle sorte que, à partir de ce que l'apôtre Paul nous dit concernant le don des langues, il y a des exhortations très importantes pour nous-mêmes quant à toute action dans l'assemblée. Il ne devrait jamais y avoir d'action dans l'assemblée dont le but ne soit pas l'édification de l'assemblée. À l'égard du fait que le frère qui présente la parole s'édifie lui-même, il est bien possible, il est même certain qu'un frère a eu à cœur un sujet ou un autre, par exemple de l'Ancien Testament, par exemple un sujet prophétique, par exemple aussi le sujet d'une parabole du Nouveau Testament dont l'interprétation est délicate. Ce frère a eu à cœur d'étudier ce sujet. Il l'a même sondé, et un jour, il a eu à cœur d'en parler dans l'assemblée, avec tous les détails qui lui a été donné de relever dans cette interprétation approfondie qu'il a faite de ce sujet de la parole. Mais l'assemblée, dans son ensemble, n'entre pas ou entre peu dans cette interprétation. L'édification n'est que minime. Et à cet égard, si d'une part il est à désirer que nous étudions beaucoup la parole de Dieu, d'autre part, quand nous sommes dans l'assemblée et que le Seigneur nous appelle à présenter la parole, nous devons toujours rechercher comme but de cette action, de cette présentation de la parole en particulier, l'édification de l'ensemble. L'édification de l'ensemble. Et cela, cette pensée, est valable pour une réunion d'études comme celle de cet après-midi. Dans toute réunion d'études, quand j'ouvre la bouche, je devrais d'abord me demander si ce que je vais dire est pour l'édification de l'Assemblée.
Pour la réalisation de cela, soit dans cette réunion-ci, soit dans les réunions des rassemblements, nos rassemblements respectifs ou des rassemblements où qu'ils soient, alors la conclusion à tirer, c'est qu'il y ait un exercice chez chacun, chez les frères et les sœurs, pour que l'esprit ne soit pas contristé. Parce que nous avons beau dire et beau faire, nous pouvons prendre toutes les résolutions préalables que nous voulons, ce n'est pas cela qui nous permettra de réaliser une réunion qui soit dans laquelle les saints soient édifiés. C'est au moment même que nous avons besoin que l'esprit agisse. Dans tous les sens, on peut être 1000, on peut être 10, la question est exactement la même. Et si le Saint-Esprit n'agit pas, une réunion à 10 personnes peut avoir un caractère aussi lourd que s'il y en avait 100 ou 1000. Nous arrivons donc à un point crucial, qui est celui-ci, et qui probablement, à propos duquel probablement nous avons tous à faire attention au plus haut degré, les frères et les sœurs, que l'esprit ne soit pas attristé. Et si un frère qui a un don, n'est-ce pas celui qui n'a pas de don et qui agit comme s'il en avait un, il prend un mauvais départ. Mais si un frère qui a un don agit de sa propre volonté dans le rassemblement, il fait il pêche. Et il gâte d'avance la réunion. Dans l'assemblée, nous sommes dépendants du Saint-Esprit, chacun doit l'être, et c'est ainsi que les réunions pourraient être merveilleuses. Nous nous goûtons, mais beaucoup moins que nous ne pourrions, et que nous ne devrions. L'esprit d'un apôtre lui-même ne remplacerait pas le Saint-Esprit, en aucune manière. Alors, si on nous a exhorté très justement, frères et sœurs, à avoir cœur le bien des réunions, pensons à cela chez nous, d'abord et avant toute réunion, tous. Et demandons au Seigneur, qui est chef, et qui est le Seigneur dans l'Assemblée, il n'est pas Seigneur de l'Assemblée, mais il est Seigneur dans l'Assemblée, demandons au Seigneur qu'il conduise les choses de cette manière. Il y a toujours de l'édification quand les âmes sont amenées ou ramenées à Dieu. Il n'y en a pas quand cela n'est pas fait. Quelque excellent que puissent être les développements présentés.
Encore, c'est que cet exercice de tous, si nécessaire, cette recherche et cette demande de la liberté de l'esprit qui suppose un exercice bien antérieur à la réunion, n'est-ce pas ? Il s'agit ici de l'état de tous et de chacun dans l'Assemblée. Mais cet exercice particulier dans le rassemblement, dans une réunion d'édification, il est le fait, on ne saurait trop y insister, de tous. Une causes de l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons, on se trouve bien dans cet esprit passif dont il a été question tout à l'heure. Cette attitude qui nous est naturelle, n'est-ce pas, dirait bien, je suis là, Et comme le disait un bien cher frère, j'entends encore, je suis là, édifiez-moi si vous pouvez. Sans qu'il y ait l'activité de cœur et d'esprit, demandons au Seigneur de bénir cette réunion. Recherchons l'action de l'esprit dans la dépendance et l'humilité. L'esprit sera plus ouvert, peut-être, qu'on ne croit, s'il y a cette activité. Et si même il y a des choses que l'on ne comprend pas, et des choses difficiles à comprendre, on s'attendra au Seigneur pour les recevoir, pour qu'elles pénètrent en nous comme des vérités venant de lui. De même que celui qui est appelé à présenter la parole doit être exercé, comme il y a été insisté tout à l'heure, sur le fait de parler un langage intelligible et de le faire selon qu'il est enseigné de Dieu, parlant comme oracle de Dieu, selon que le dit l'apôtre Pierre. Mais ne confondons pas tout de même chose intelligible, c'est-à-dire accessible à l'intelligence, que l'on peut saisir, et de choses aisées à comprendre. Toutes les vérités de la parole sont loin d'être faciles à comprendre. Daniel pouvait dire, dernier chapitre de son livre, qu'il l'avait entendu et il n'avait pas compris. L'apôtre Pierre, écrivant, et c'était l'apôtre Pierre, c'était pas le premier venu, l'apôtre Pierre pouvait dire, pouvait parler de ces choses qu'écrivait notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, et ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre. Prenons garde de ne pas être de ceux que l'apôtre nomme ensuite les ignorants et les mal affermis, et qui risquent alors de tordre toutes les Écritures à leur propre destruction. Il y a une activité spirituelle, une activité de l'intelligence spirituelle, intelligence renouvelée, mais en somme, c'est une des facultés humaines que l'Esprit de Dieu emploie pour que ce qui vient de Dieu nous soit communiqué. C'est l'entendement renouvelé. Et l'apôtre peut exhorter ici les Corinthiens. Il parlait surtout à ceux qui se faisaient valoir par leurs dons extraordinaires. Mais enfin, il parle à l'ensemble quand il dit « Ne soyez pas des enfants dans vos entendements. Dans vos entendements, soyez des hommes faits. Il y a des progrès à faire, et des progrès à faire dans des choses qui peuvent être difficiles. Elles sont impossibles à comprendre par l'intelligence naturelle, mais même sous l'action de l'esprit, même la parole expliquée clairement, il peut y avoir des difficultés. Que faut-il faire ? Eh bien, faire comme le jeune homme, le jeune prophète Zacharie, à qui une vision a été donnée et à qui l'ange demandait « Comprends-tu ces choses ?»« Non, je ne comprends pas. Explique-moi. Seigneur, que sont ces choses ?» Les disciples qui, dans le particulier, demandaient au Seigneur Jésus « Explique-nous cette parabole. » « Mais comment ? Vous n'entendez pas ces paraboles ? Vous êtes comme ceux dont le cœur est endurci. Mais enfin, je vais tout de même vous l'expliquer. Voilà comment le Seigneur était avec ses disciples. Et voilà comment ses disciples étaient avec le Seigneur. L'intendant éthiopien qui revenait de Jérusalem, il ne s'agit pas de l'assemblée, mais enfin, contact avec l'Écriture. Il lisait le prophète Ésaïe, il lisait avec attention, il en était saisi. Mais de qui le prophète parle-t-il ?
Comment comprendrai-je ces choses si personne ne les explique? Des choses qui peuvent être difficiles à comprendre, mais qui sont toujours et qui doivent toujours être présentées de façon intelligible.
On ne peut pas, on ne peut guère s'attendre à ce que dans une assemblée, même de chrétiens, tous les niveaux et tous les besoins soient les mêmes. Ils ne sont jamais les mêmes. Et que un frère pourrait être un prophète authentique et accomplissant parfaitement sa tâche au moment même, tout ce qu'il aurait pu dire ne sera pas nécessairement compris par tout le monde. Parce que les... Mais s'il est vraiment dans la main du Seigneur, il pourra y avoir quelque chose pour chacun. Dans ce que le Seigneur lui aura donné de dire. Le Saint-Esprit peut être contristé pour bien des raisons. S'il y a un frère ou une sœur qui marche mal, il est évident que cela trouble, gêne l'action, cela attriste le Saint-Esprit. Et s'il y a un prophète dans l'assemblée, il le sentira sans savoir d'où cela peut venir. Et il pourra être conduit, sans rien savoir, à parler d'une manière qui atteigne le coupable. Merveilleuse chose, n'est-ce pas, qui peut prévenir l'aggravation d'un mauvais état. Merveilleuse chose que ce rassemblement des saints autour de Christ, avec les ressources que le Seigneur a données, et qui permet donc aux saints d'être gardés d'une part, et d'autre part, le cas échéant, d'être restaurés par les ministères divers que le Seigneur a lui-même donnés. Il se peut aussi que ce soit le frère lui-même qui, manquant de dépendance, un prophète ou un docteur manquant de dépendance, ne serve mal les saints et même attriste l'esprit. Et cela, nous avons bien à reconnaître que cela nous arrive à tous, n'est-ce pas? Raison de plus pour être exercé pour toutes les réunions. Si un frère vient à la réunion avec la volonté de présenter un sujet, il risque d'y avoir une réunion sans édification. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas à se préparer, mais sa préparation est morale, ou en tout cas elle est de toute sa vie. Et ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il ne sache pas jusqu'au moment même ce qu'il aura à présenter. Mais si nous mettons dans notre esprit que nous ferons ceci ou cela, eh bien nous gênons l'Esprit Saint. C'est très sérieux que la vie de l'Assemblée. Et l'Esprit est extrêmement délicat, extrêmement sensible à tout ce qui n'est pas de lui. Justement, s'il y a des mots, et s'il y a la mondanité, ou toutes sortes de mots, le service d'un prophète pourra aider à leur guérison, et prévenir bien des troubles, ou que les troubles s'aggravent. Le grand point, toujours en cela, c'est que l'assemblée et les individus soient ramenés à Dieu, dans la communion avec Dieu. Sinon, c'est la chair qui l'emporte. La chair ne se tait jamais dans la présence de Dieu, que dans la présence de Dieu. Autrement, jamais elle ne se tait.
C'est une expression sérieuse et douloureuse qu'emploie l'apôtre. Se réunir à son détriment, vous réunir à votre détriment. Il y a aussi, et nous voudrions le dire avec toute l'affection que nous portons à nos chers frères et sœurs, il y a aussi une tendance à une sorte de paresse spirituelle et qui nous gagne. Les Hébreux avaient hélas versé dans cette habitude, vous êtes devenus paresseux. Nous aurions des choses remarquables à vous dire, mais cela dépasserait peut-être votre capacité. Il va nous falloir revenir aux rudiments. Puis, l'Esprit de Dieu l'encourage. Et ces choses qui avaient trait à Melchizedek, il les reprendra et en fera l'objet d'un chapitre tout entier. Il faut prendre garde, chers frères et sœurs, à cette lenteur de cœur à croire et à comprendre. Celle que Jésus reprochait aux disciples desquels il avait cherché la compagnie pour les consoler et les ramener. Nous ne voudrions, cela va sans dire, en aucune manière, être là devant nos frères et sœurs avec quelque droit à leur parler un autre langage que le langage de l'amour. Mais n'est-ce pas un fait de douloureuse expérience? N'y a-t-il pas tendance à nous habituer une sorte d'enseignement facile, une sorte de réédition presque régulière des mêmes vérités qui ne demandent à nos esprits ni ferveur ni attention? Nous avons besoin d'être réveillés à cet égard. Et tout ce que Dieu nous a permis de considérer ensemble dans le commencement de cette rencontre doit nous trouver sensibles. Doit nous trouver sensibles. On y a insisté, nous n'y insisterons jamais trop. La vie de l'Assemblée est quelque chose de très délicat. Elle peut être troublée par toutes sortes de considérations, qu'il s'agisse d'œuvres charnelles, de prétentions de quelques-uns, d'affirmations d'autorité chez d'autres. Tout cela tend à troubler la vie de l'Assemblée. Mais si la personne du Seigneur est là devant nous, et si ensemble nous la recherchons, quelquefois, contraints de nous juger nous-mêmes quand nous sommes encore présents, venant là au culte avant même que la scène soit célébrée. Quelle douloureuse expérience, mes chers amis. Et Dieu veuille que nous la fassions d'une façon consciente et pleine d'humiliation, mais quelle douloureuse expérience. Et que dire de cette sorte d'attente, disons-le, d'attente passive quant à l'action de l'Esprit dont nous pensions bien qu'il y aura quelque chose pour nous, mais s'il n'y a pas d'exercice dans le cœur. Ce sera cette paresse que l'apôtre déplore chez ses chers croyants hébreux. Pénétrons-nous bien de cette pensée que une sainte activité est requise de la part de tous. Quant à l'activité, pas paresseux, fervents en esprit, servant le Seigneur. Et ce service, c'est un service de tous les instants. Nous sommes ses esclaves, sa mort nous a liés à lui comme étant sa propriété, de la tête aux pieds nous lui appartenons.
ne sommes pas seulement des croyants pour le dimanche, mais combien, hélas, souvent, nos dimanches portent le reflet pénible et humiliant de nos semaines. Nous parlons parfois des corbeilles remplies. C'est peut-être plutôt une allusion ou une expression figurée qu'une réalité. Nous voudrions encore, j'aimerais profiter de cette circonstance pour souligner ce que l'apôtre ici présente comme souhaitable, désirable et peut-être obligatoire, l'amène aux prières. Il ne s'agit pas pour nous de faire beaucoup de bruit, de remplir la salle d'expressions variées de notre approbation, ce serait bien triste. Mais n'est-il pas vrai, je dirais n'est-il pas douloureux, que d'une manière générale, même dans les réunions de culte, et cela n'implique pas que ceux qui ne disent pas Amen, qui ne l'expriment pas d'une manière haute voix, ni ne s'y joignent pas, mais dire l'Amen aux prières, c'est une preuve d'une unité d'esprit dans l'esprit qui s'exprime. Nous savons bien que dans certains milieux chrétiens où on oublie que le bruit ne fait pas de bien et que le bien ne fait pas de bruit, les Amen s'expriment avec des intonations dignes d'un mahométan. C'est triste, mais pour nous, est-ce que par une réaction inconsidérée, nous ne savons pas, ou nous n'avons pas à cœur, et nous ne savons pas dire Amen d'une manière explicite, expresse, et qui marquera que nous entrons dans ce qui a été exprimé ou présenté au Seigneur.
À l'exception qu'une prière ne soit pas entendue, si on prie trop bas, on ne peut pas dire Amen à une prière qu'on n'a pas entendue.
Il y a deux pensées très pratiques à cet égard. Il y a le fait que vous soulignez maintenant le fait de ne pas s'exprimer suffisamment fort, on parle doucement, l'assemblée n'entend pas, il est impossible que l'assemblée puisse dire Amen. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre danger, le danger de la longue prière? On fait, on ne devrait pas employer ce verbe, on exprime de trop longues prières. Et les pensées des assistants, des frères et sœurs sont distraites, pour ne pas dire davantage. Et alors, ne suivant plus le cours de la prière, nous ne pouvons pas non plus dire Amen à une prière semblable. Et cela, nous le savons bien, nous le répétons souvent, peut-être chaque fois que nous nous trouvons ici, mais c'est une pensée que nous avons à cœur. Dans la mesure où nous réaliserons que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu lui-même, nos paroles seront peu nombreuses, et alors, c'est un fervent Amen que nous aurons le bonheur d'entendre de la part de l'Assemblée.
N'oublions pas non plus que, en particulier au culte et dans les réunions de prière, celui qui prie est en principe la bouche de l'Assemblée, doit être la bouche de l'Assemblée. Nous avons en Esdras, chapitre 8, verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen. Tout le peuple.
Esdras, chapitre 8, verset 6. Et Néhémie, pardon. Néhémie, chapitre 8, verset 6.
Ni habitude, ni contrainte, mais que nos cœurs vraiment exercés manifestent dans la dépendance du Seigneur l'accord dans l'esprit.
Deux choses qui n'en font qu'une en réalité, que nous devrions avoir davantage, est le sentiment que nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a le Seigneur présent au milieu des siens selon sa promesse. Ce n'est pas proprement le côté que nous avons ici. Ici, nous avons le côté de la présence de Dieu parmi les siens dans l'assemblée, agissant par le Saint-Esprit. Et si d'un côté il est extrêmement précieux de goûter ensemble la présence personnelle du Seigneur Jésus selon sa promesse, combien il est sérieux et précieux aussi de nous sentir devant Dieu lui-même. N'est-ce pas, verset 25, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Voilà ce qui est normal, ce qui doit être éprouvé normalement ici par quelqu'un, un incrédule lui-même qui est convaincu, mais combien plus ceux qui sont réunis par la puissance et la bonté de Dieu sous son regard, doivent-ils l'éprouver, que nous sommes là, non pas en présence seulement les uns des autres, mais tous ensemble dans la présence de Dieu. Et lié à cela, le fait que Dieu agit dans l'assemblée par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui opère. Il a été suffisamment insisté sur ce point pour ne pas y revenir encore, mais il faut qu'il y ait, pour que l'assemblée fonctionne normalement, et qu'il y ait cette liberté qui est le propre de ceux qui réalisent la présence du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il y a dans les différents cas qui ont été évoqués tout à l'heure, insuffisance des amens pour des causes diverses, il y a entre autres ce manque de réalisation de la liberté que donne l'Esprit de Dieu. Présence de Dieu, action et présence du Saint-Esprit. Que il nous soit donné de penser davantage à ces grandes choses. Que Dieu nous ait conservé le privilège de nous réunir. Qu'il ait attiré par sa grâce notre attention. Il y a eu des prophètes qui ont été donnés pour cela. Et ceux que nous appelons volontiers nos devanciers. Hélas, il faudrait que nous les suivions davantage. Mais ces prophètes qui nous ont fait connaître ce qui était dans la parole, ce qui était consigné, ce qui était déjà révélé, mais qui a été, pour ainsi dire, en effet révélé une seconde fois, pour nous amener à nous rassembler simplement selon les enseignements de la parole. Et simplement comme étant non pas, il faut encore et toujours le redire, un groupe particulier au sein de la chrétienté, une dénomination, une forme d'église nouvelle, mais une expression de ce qui est l'église, indépendamment de nous, notre pensée, notre volonté. L'Église telle que le Seigneur l'a voulu, telle que Dieu l'a voulu, telle que le Saint-Esprit la forme sur cette terre. L'ensemble de tous ceux qui sont nés de Dieu par le Saint-Esprit, mais qui en ont conscience par la grâce. Eh bien, nous avons cette immense faveur de pouvoir nous réunir de la sorte. Nous n'avons qu'à écouter les enseignements que le Seigneur nous a fait la grâce d'être placé une fois de plus devant nous aujourd'hui, et chacun pour notre compte, chercher, veiller à réaliser tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons réunis à notre profit, à la gloire du Seigneur, et non pas en effet à notre détriment.
Vraiment, si dans les réunions nous n'y trouvons pas Dieu, ce n'est pas la peine d'y venir. Si nous n'avions pas Dieu, le plus grand des désordres se manifesterait bien vite, même s'il n'y avait que d'authentiques chrétiens. Parce que seule la présence de Dieu peut contenir la chair qui est en chacun. Il n'y a pas d'autre puissance au monde. Et non seulement quand elle se manifeste d'une manière apparente, mais bien plus encore, lorsqu'il s'agit des motifs qui font agir, ce qui se passe au fond des cœurs et que Dieu sait. Les interdits ne sont pas toujours et peut-être pas surtout produits par des causes extérieures apparentes, bien que cela soit, mais par des cœurs non jugés, par l'égoïsme, par la fraude, par le manque de vérité, par la mondanité plus ou moins voilée. Tout cela, cet esprit le sonde, le voit. Et il ne peut pas agir quand cela est, comme si cela n'était pas. On ne le trompe pas. Nous avons avélié, et par conséquent, que dans l'enseignement, dans les assemblées, on présente ces choses aux âmes, aux saints. Et c'est surtout le Nouveau Testament et les Épîtres, surtout, qui ont besoin d'être étudiés, présentés aux saints, pour leur édification dans les réunions courantes de chaque rassemblement. C'est tout à fait selon le Seigneur. Si les saints ne le trouvent pas là, ils risquent bien de ne pas le trouver, de le trouver nulle part. Sauf que la piété, c'est toujours trouver Dieu. Mais alors, cela risque d'être une condamnation pour le rassemblement. Un autre point aussi important, c'est que nous soyons gardés de la routine dans le déroulement des activités dans les réunions. Quelqu'un venant du dehors et entrant dans une réunion, quelle qu'elle soit, devrait sentir que Dieu est là, qu'il agit là. Même un inconverti, nous le trouvons là. Qu'il n'entend pas des hommes, qu'il ne voit pas des hommes, mais qu'il se trouve en rapport avec Dieu. À combien plus forte raison, nous les croyants, nous devons être exercés pour que quand nous venons ensemble, nous soyons véritablement devant Dieu. Alors nous pouvons sortir avec une bénédiction que chacun emporte. Mais il faudra toujours être exercé pour toutes les réunions pendant toute notre vie.
Une dernière pensée à l'égard de ce que vous disiez au début, à l'égard de ce que vous avez dit au début, n'est-il pas remarquable de voir que dans la dernière épître de l'apôtre Paul, l'épître des derniers jours des temps mauvais et fâcheux, nous sommes exhortés à poursuivre aussi l'amour, mais l'amour n'est pas mentionné en premier lieu, il est mentionné en troisième lieu. Nous avons à poursuivre d'abord la justice. Il est parlé un peu plus haut d'injustice ou d'iniquité. Nous avons à poursuivre la justice. Ensuite, secondement, la foi. Cet ensemble de la vérité chrétienne à laquelle notre foi s'attache. Et troisièmement seulement l'amour. Et quatrièmement, finalement, la paix. On aimerait beaucoup aujourd'hui poursuivre l'amour, poursuivre la paix, mais au détriment de la vérité de Dieu, et dans un chemin qui n'est pas dans un chemin de justice, un chemin à la gloire de son nom. Il est très remarquable de voir que dans cette seconde épître à Timothée, le croyant est exhorté à poursuivre premièrement la justice, la foi, l'amour, la paix. La parole de Dieu est parfaite, elle est absolument complète. Chaque partie se complète l'une l'autre. Dans notre passage, l'amour est mis en évidence, c'est l'assemblée. L'assemblée réalisant absolument la pensée de Dieu. C'est l'amour qui est mis en évidence. Notre chapitre commence par cette exhortation. Poursuivez l'amour. Et ce même chapitre se termine par la mention que Dieu est un Dieu de paix. Mais dans la deuxième épître à Timothée, où tout va tellement mal dans le monde dit chrétien, dans le monde christianisé, le témoin du Seigneur est exhorté à poursuivre la justice, la foi, et puis l'amour et la paix.
Sont moins importantes,
ah non.
Bien au contraire, mais plus difficiles à réaliser, et qu'elles supposent les deux premières poursuivies. Cantique 142.